Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Vendredi 10 février, mesdames, messieurs, bienvenue au Forum de la Presse. Le début de cette année 2017 est marqué par une succession de manifestations et de grèves. Nous en parlerons dans cette émission. Kuchala, une ressortissante colombienne enlevée par des hommes armés, également au menu de ce Forum de la Presse. Une rencontre de haut niveau du CSA se tient à Bamako aujourd'hui même. Elle réunit les dirigeants des principaux groupes armés, la médiation et le gouvernement. La conférence d'entente nationale est prévue le mois prochain. Le médiateur de la République poursuit les consultations. Pour en parler, nous sommes avec les confrères de la presse. Il s'agit de Idrissa Keita de Raïda Info, Mamadou Fofana de l'Indépendant et Hassan Kone de NotreNation.com. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Diouara.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue donc à cette émission. Multiplication des grèves dans le pays. Le début de cette année 2017 est marqué par une succession de manifestations. Les secteurs concernés sont la justice, l'éducation, la santé, les mines, les affaires étrangères et le commerce. Tous ont battu le pavé pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Certains observateurs estiment que cette multiplication des grèves ne présage rien de bon. Alors Hassan, est-ce que vous partagez cet avis-là, hein, la récurrence des grèves dans le pays?
Oui, mais la récurrence des grèves dans le pays, c'est pas quelque chose qui est totalement mauvaise en soi. Et parce qu'il faut reconnaître dans le contexte malien, et on est dans une sous-région globalisée et on a les mêmes contraintes de vie. Quand tu vis à Bamako, tu achètes un kilo de sucre à Bamako, c'est comme si tu l'achetais à Abidjan, c'est comme si tu l'achetais à Dakar ou à Ouagadougou, c'est le même prix. Mais malheureusement, lorsqu'à la fin du mois, le fonctionnaire malien ou le travailleur malien touche son salaire, il se trouve à milieu de ce que perçoit pratiquement un travailleur à Abidjan ou un autre travailleur à Ouaga ou à Dakar. Donc, c'est pour moi, je trouve très normal que des travailleurs, à un moment donné, acceptent de poser et poser vraiment des revendications pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Alors, certains observateurs disent que ça ne présage rien de bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Bon, ça ne présage rien de bon, mais moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas personnellement. Je pense que lorsque on prend la responsabilité de gouverner un pays, on le gère avec les problèmes. Et c'est des problèmes auxquels les gouvernants doivent s'attendre. Les travailleurs vont revendiquer pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il faut que quand on gouverne un pays, on prend les dispositions pour satisfaire cela, parce qu'on est venu pour rendre les gens heureux.
Merci Hassan Kone. Mamadou Fofana, vous êtes donc journaliste à l'Indépendant. Qu'est-ce qui serait donc à l'origine de ce que moi j'appelle les grognes sociales?
Bon, l'origine, je crois qu'il y a des origines, certainement. Bon, mais il n'y a qu'un seul dénominateur commun, c'est que c'est le coût de la vie, c'est les difficultés donc, auxquelles les citoyens, les travailleurs sont confrontés. Donc je crois que cela ne date pas d'aujourd'hui. Bon, maintenant qu'il y ait que d'un coup, qu'il y ait une succession de grèves, je crois que, bon, cela, je ne saurais pas expliquer cela, mais je crois que vraiment c'est des sentiments mitigés, parce que les gens vont dire bon, ça dépend de quel côté on se trouve, mais moi je crois que en fait ce pays, je crois qu'on a besoin d'une situation quand même plus ou moins apaisée, parce qu'en réalité je ne sais pas, mais quand je vois certaines revendications, franchement je crois que souvent
justement ça m'amène à vous poser la question suivante, est-ce que les revendications en général sont légitimes, ces revendications que les travailleurs amènent sur la table, est-ce qu'elles sont légitimes pour la plupart?
Bon, je parce que comparaison n'est pas raison, moi je dirais, parce qu'en réalité je prends notre propre cas, on a des cadres, on est ici, notre salaire au Mali c'est pas la même chose qu'à Abidjan, c'est pas la même chose qu'au Burkina, mais je crois que franchement c'est légitime, mais est-ce que l'État a la capacité? Parce qu'en réalité c'est un peu ça, Sinon, toute revendication d'or salarial ou d'amélioration des conditions de vie est légitime, que ce soit au sein du secteur privé que du secteur étatique. Mais ce qu'on voit d'ailleurs, surtout, c'est surtout le secteur, c'est l'État. Bon, un État qui est quand même très affaibli, moi je dirais, et qui tire le diable par la queue, je dirais, parce que économiquement, quand on voit où va l'argent, la sécurité, le Nord, bon, franchement, moi je me demande où est-ce que l'État va tirer, va puiser des ressources pour satisfaire cette doléance. Donc, c'est des doléances, certes, légitimes, l'éducation, mais seulement toutes les revendications, même, ne sont pas d'ordre matériel. Il y a des textes à apprendre, il y a des trucs, bon, je crois qu'il y a des plans de carrière, il y a plein de trucs. Moi, je crois que vraiment, ça demande, tout n'est pas d'ordre financier. Donc, je crois que l'État doit avoir l'aspect qui est purement administratif, l'aspect bureaucratique, je dirais. Donc, je crois que l'État doit essayer de satisfaire à ces aspects. Mais les revendications maximalistes, franchement, moi, je me pose la question, quoi, franchement.
Merci. On va donc laisser Idrissa Keïta de Raïda Info répondre à la question de Fofana de l'Indépendant. Est-ce que l'État a les moyens de satisfaire aujourd'hui les revendications des grévistes?
D'emblée, je vous remercie pour cette invitation. Je m'estime quelque part heureux. Le confrère a parlé d'un plan un peu sous-régional où finalement on se retrouve. Qu'est-ce que je veux dire? Le contexte actuel fait que dans un pays voisin, il y a aussi le front social qui est en ébullition, mais heureusement, par rapport à ce pays-là, là-bas il y a plus de bruit de bottes qu'ici. Pour revenir maintenant au contexte local, au contexte malien, je dirais que les observateurs ont misé sur le mauvais cheval. Pour la simple et bonne raison que c'est de bonne guerre. L'État a eu à faire face à ce que je pourrais même appeler ce qui même a été même le point de départ, c'est que en septembre 2014, l'UNTM a eu à faire une démonstration de force avec une grève de plus de 3 jours, 48 heures, 72 heures, qui a eu une ampleur quasi nationale, à telle enseigne que le ministre même du Travail d'alors a dû rendre le tablier. Et chaque fois que la fête des travailleurs, à savoir le 1er mai, se tenait, c'est vrai que l'UNTM n'est pas la seule force, mais l'année passée, tous les syndicats, UNTM, CSTM et CDTM, avaient le même langage. Ils ont prévenu qu'il y aurait des sorties, c'est-à-dire des grèves. Maintenant, pour revenir au sujet en lui-même, il y a plusieurs grèves à la fois. On ne va pas se lorgner la face. Certaines revendications ne sont pas réalistes.
Telles que?
Je préfère faire la langue de bois. Parce qu'il s'agit...
Alors, prenons le cas de la grève des magistrats, par exemple. Selon ce qu'on a vu sur papier, si l'État veut satisfaire toutes les revendications de ces magistrats, on parle d'environ 150 milliards qu'il faudrait débloquer. Est-ce que ça vous paraît réaliste?
Aucunement.
Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui?
Actuellement, le Mali n'a pas les moyens. On voit le Mali faire toujours appel aux amis du Mali qui se retrouvent toujours dans des panels pour pouvoir amasser assez de fonds pour développer le Mali. Et on voit qu'à ce jour, des promesses qui ont été faites depuis 2 ans, 3 ans, voire même depuis la transition sous le président Diokounda Traoré n'ont pas encore eu de suite. Donc c'est pour vous dire que quelque part, l'État est censé s'assumer, c'est vrai. L'État, force doit rester à l'État, mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas évident. Mais sur un autre point, la grève des magistrats, par exemple, on aura remarqué 2 choses. Une opinion ne comprend pas que les magistrats, en tout cas dans la hiérarchie salariale, aient un statut très avancé et se retrouvent à faire des revendications. Une partie de l'opinion ne le comprend pas. Mais d'autre part, on aura constaté qu'il y a quand même eu une cacophonie. 2 syndicats se sont mis ensemble, mais ce ne sont pas tous les magistrats qui ont la même aisance. Certains peuvent faire autant de semaines sans travailler, sans affaires, tandis que d'autres vivent en fait de certaines, je vais dire, certains arrangements, certains conciliabules, à travers lesquels des enveloppes, ou si vous voulez, des billets circulent. Donc, lorsque il y a une extension d'arrêt des travaux, il ne va sans dire que ces derniers-là vont le sentir. Et déjà, cela a été vu lors de cette grève.
Merci, Idrissa. On va revenir vers vous tout à l'heure. Hassan Kone, vous l'aviez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible d'aligner le fonctionnaire malien sur les salaires de certains pays de la sous-région, vu que les revenus des pays ne sont pas les mêmes? La Côte d'Ivoire, par exemple, est un pays beaucoup plus riche que le Mali. Le Ghana est un pays plus riche que le Mali. Est-ce qu'il serait censé que nos fonctionnaires demandent à être alignés sur la même grille salariale que des pays comme ça?
Et vous voyez, au niveau, on est dans une zone, UOMOA, il y a des taux de convergence. Quand l'État du Mali signe des contrats ou des conventions au niveau de l'UOMOA, c'est à l'État du Mali de comprendre que il n'a pas la même capacité de mobiliser des ressources comme la Côte d'Ivoire. Mais quand l'État fait fi de cela et se met au diapason avec ces États, moi je trouve qu'il est tout à fait normal que les citoyens maliens revendiquent. Revendication maximaliste, on sait le syndicalisme, c'est ça. On revendique de façon maximaliste pour avoir le minimum. Tu ne vas pas commencer à revendiquer le minimum, qui va te donner le minimum en ce moment? Donc ils sont conscients, ceux qui sont en train de revendiquer connaissent la capacité de l'État du Mali. C'est des citoyens maliens, c'est des cadres maliens. Ils connaissent bien la capacité de cet État. Ils revendiquent c'est des négociations qui vont s'ouvrir. Et c'est clair que si l'État sait pourquoi aussi ces gens sont dans cette position, parce que c'est maintenant ça, l'abcès a crevé. Sinon, c'est un processus qui existe depuis 3 ou 4 ans, voire peut-être souvent pour certains depuis 10 ans. Ceci étant, il faut admettre aussi que, et M. Fofana disait tout de suite que l'argent du Mali va au nord, la sécurité. Mais c'est vrai, le Mali est confronté à d'énormes problèmes. Mais il faut aussi qu'il accepte que l'argent du Mali aussi va dans la corruption. Gérons, gouvernons mieux, on peut mobiliser beaucoup de ressources si on gère bien les ressources nationales et les réinjecter dans le traitement salarial. Et ce traitement salarial, si l'argent va nulle part, ça reste au Mali. C'est consommé à l'intérieur du Mali. Ça développe l'économie locale, l'économie malienne.
Monsieur Fofana, c'est une solution.
Donc, il y a la lutte contre la corruption qui doit passer. Effectivement, il y a combien de milliards que l'État malien perd dans ce processus?
On va laisser Mamadou Fofana réagir à cette histoire de corruption. Est-ce que l'argent, justement, de la corruption ne peut pas être réinjecté?
Je crois qu'on n'a jamais vu une revendication de magistrats. Moi, je ne suis pas contre la magistrature. On parle de la grève des magistrats.
C'est l'actualité.
Il a parlé, il n'y a jamais eu de grève. Mais combien de dossiers dorment dans les tiroirs des tribunaux? Est-ce qu'un jour, depuis que Ibeka est là, en 2013, il a proclamé l'année 2014, l'année de lutte contre la corruption. Il a dit, j'ai transmis 200 et quelques dossiers à la justice. Où sont ces dossiers? C'est dans les tiroirs des tribunaux. Mais pourquoi il n'y a pas de grève pour qu'on dépoussière ces trucs-là? Non, je vous en prie. Moi, je n'ai pas de magistrats. On a fait les mêmes études. Je n'ai pas de complexe vis-à-vis des magistrats autres, ou des médecins, ou des... Non. Mais je crois que ce qu'il dit, c'est-à-dire, si l'argent va dans la corruption, j'aurais aimé quand même que les magistrats disent aussi et dépoussièrent ces dossiers-là. Parce que la lutte contre la
corruption. Vous pensez que les magistrats doivent d'abord assainir
leur secteur? Mais le président a dit que c'est la justice, elle est indépendante. Mais il n'y a jamais eu de procès de corruption. Au Mali, il n'y a jamais eu un seul procès. Mon voisin vient de le dire, n'a pas dit clairement. Des enveloppes circulent. Il y a des structures pourries. Je vais le dire, il y a des structures pourries. Mais il n'y a jamais eu de sanctions.
Est-ce que les magistrats sont exempts justement?
Non, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est le ministre même de la justice qui l'a dit. Quand il est venu, le nouveau ministre de la justice, quand il est venu, il a dit. Il a reconnu, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans le système. Mais je sais quand même que le ministre l'a dit. Il était même venu sur de grands chevaux. Il voulait vraiment, il voulait nettoyer. Mais malheureusement, il y a tout ça. Je comprends que l'État, sinon les médecins aussi, les médecins qui sont au nord, les infirmiers qui sont là-bas, qui demandent 50 000, 20 000 francs d'indemnité, qui sont à Douanzan, qui sont dans les localités où vraiment il y a l'insécurité totale. Mais quand même, ils ont aussi droit. Je préfère donner 500 000 francs de trucs à quelqu'un qui est à Kidal.
Merci Mamadou Fofana.
À quelqu'un qui est à Bamako.
Je vous propose de prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer cette émission pour parler justement d'insécurité dans le pays.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Une Colombienne a été enlevée au Mali. Il s'agit de Sœur Gloria Agouti. C'était dans la nuit de mardi dernier dans le village de Karangasso, à une cinquantaine de kilomètres de Koutiala. Selon une source sécuritaire, aussitôt après avoir été prévenue, l'armée malienne a engagé une poursuite contre les ravisseurs. Alors, Hassan Kone, on voit le 24 décembre 2016 à Gao, c'était la Française Sophie Petronin. Maintenant, Sœur Gloria Agouti. Qu'est-ce qui explique cette séance de rap?
Bon, j'ai des inquiétudes, parce que ce qui pourrait expliquer cela, il se pourrait qu'il y ait une stratégie. Ça, c'est des inquiétudes énormes, qu'il y ait une stratégie bien planifiée, des individus bien ciblés, bien identifiés à travers le pays, qui vont être victimes de ce procédé.
Et là, on parle de Koutiala, qui est dans le centre du pays.
C'est comme si aujourd'hui, on peut même venir enlever quelqu'un à Sikasso, on peut prendre quelqu'un à Bamako. Donc c'est là l'inquiétude de la stratégie, parce que ça, c'est une stratégie qui démontre que on peut frapper là où on veut à travers le Mali. Et ça met vraiment en difficulté tout le dispositif sécuritaire du pays. Et c'est pas bonne presse pour le Mali.
Est-ce que l'insécurité est en train de se déplacer à une vitesse grand V?
Bon, l'insécurité, vous voyez, l'insécurité est devenue un phénomène globalisé. Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 années, il y avait des États à travers le monde qui avaient des bics rouges, qui traçaient des lignes rouges. Ils sont autant victimes que nous aujourd'hui. Mais c'est différent. Et ils ont un dispositif qui arrive à poursuivre, à arrêter, à appréhender. Mais chez nous, malheureusement, quand ça se passe, les bandits disparaissent comme si de rien n'était. Et c'est la grande différence, et c'est ce qui inquiète. Et aujourd'hui, on doit se poser des questions. Quel est le dispositif sécuritaire qui est mis en place pour éviter des cas comme Karangasso? Parce que ça donne vraiment une mauvaise image au Mali. Une véritable mauvaise image au Mali. À un moment donné où tout le monde pensait, après le sommet France-Afrique, après ces grandes rencontres qu'a eu lieu à Bamako, que les choses commençaient à rentrer dans l'ordre. Et c'est là qu'on commence à avoir de tels actes. C'est vraiment inquiétant.
Merci. Mamadou Fofana, on a vu ce reportage de France 2 sur le marché des otages avec d'ailleurs notre collègue journaliste Cheikh Amadou Diouara qui y a participé. Est-ce que vous pensez justement que au Mali aujourd'hui, l'affaire des otages est devenue un business?
Bon, c'est regrettable quand même, mais je crois que c'est pas le Mali seulement. C'est-à-dire le problème aujourd'hui, je crois que tout pays quand même doit fournir des efforts. Maintenant, il y a 2 otages, je crois, ou je suppose, deux personnes.
Il y a plus de 2 otages quand on rajoute la Suisse.
C'est vrai. Donc, c'est triste quand même, comme a dit Hassan, mais seulement c'est très complexe. Parce qu'en réalité, sinon je sens quand même qu'il y a un effort sécuritaire important. Je crois qu'on a eu à apprécier cela, parce qu'il faut se dire qu'à Bamako, ça va un peu. Bon, Mali même, dans l'ensemble.
Est-ce que c'est un calme relatif? Parce que si on arrive quand même à enlever des gens à Karangasso...
Non, vous savez, ça c'est des bandits. Vous savez, c'est des revendications, c'est des bandits, des crapules, vous m'excusez le terme, qui viennent prendre des gens qui vont les revendre. Parce qu'en réalité, c'est devenu un business.
Donc il y a un marché.
C'est un marché. C'est un business pour ces gens-là. C'est pas une question d'opinion, de foi ou autre... ou d'anti-foi, je ne sais pas. Mais en réalité, c'est un marché, c'est un business. Donc, ce qu'on regrette encore, comme vraiment dit mon camarade, c'est, je crois qu'il faut toujours mettre l'accent sur la logistique. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils vont en moto. Et bon, il n'y a pas d'hélico qui peut surveiller la zone, qui peut choser. Bon,
on a vu hein, les expositions de ces hélicoptères dont l'armée s'est dotée récemment.
Bon, je crois que bon, moi, je n'en ai pas vu parce que ce que j'ai vu, bon, c'est pas de ça dont on a besoin en réalité. Donc, je crois quand même qu'il faut doter encore l'armée de moyens logistiques importants. Et puis, hein, que ça soit prédisposé sur, hein, dans toutes les localités. Un hélicoptère ne va pas quitter Bamako pour poursuivre. Non, il faut que ça quitte Kouchala, c'est Sigasso. Je ne me trompe pas. Donc, je crois que vraiment, il faut un dispositif, il faut vraiment un maillage du pays. Vraiment, il faut qu'on ait des moyens logistiques importants, moi, je crois. Bon, ça, c'est graduel, je n'accuse pas, mais je crois que les autorités sont très conscientes de cela. Je crois que c'est un effort national commun. Hein? Parce qu'en réalité, vous voyez ce qui s'est passé à Garangasso, mais vous savez, s'il y a une unité de gendarmerie qui avait les moyens de poursuivre aussi, automatiquement, je crois qu'on aurait pu vraiment faire
alors
quelque chose.
On a du mal à savoir en combien de temps est-ce que les autorités ont été alertées, mais là, l'armée a tout de suite mise à la poursuite des ravisseurs. Hein, mais
pas sans, seulement l'armée, ça c'est sans, même un problème sans, de gendarmerie, de police, tous les deux. Hein?
Alors, Idrissa Keïta de Reda Info par rapport justement à la bonne sœur, hein, Gloria Gotti, son enlèvement à Karangasso. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit?
Bon, d'abord, aux dernières nouvelles, j'aurais appris que deux individus ont été interpellés suite à cet enlèvement. Les enquêtes sont en cours, le dossier est en cours, mais j'ai eu cette information. Maintenant, ma réaction va, on va dire, à l'encontre de celle d'Hassan. Moi, je dirais que le débat, il est de fond. D'une part, quand Hassan dit que il y avait le sommet et qu'on pensait que, je suis désolé, le sommet, c'était Bamako, c'était pas le Mali. Un. D'autre part, il y a 2 ans de cela, dans la forêt de Fakola, à travers cette surface, les terroristes ou les grands bandits se sont annoncés. Car depuis l'éclatement de la crise en 2012 jusqu'à maintenant, ce n'était que le nord qui était quasiment le nid. Mais à travers Fakola et d'autres actions similaires qui ont suivi...
On voit d'ailleurs hein, que le centre du pays également est en proie à des actes de violence où les maires, deux maires notamment, justement, ont été assassinés.
Donc, c'est pour vous dire que à travers le territoire tout entier, nul n'est en sécurité. Je me souviens qu'à l'époque, finalement, les autorités nous ont rejoints. La MINUSMA avait été interpellée. Mais vous êtes là, on vous voit dans le nord du pays... Le sud et certaines parties, centre ou autre, on ne vous voit pas. Ils ont dit non. Notre mandat est spécifiquement focalisé sur le nord du Mali.
Quoiqu'à Banamba, pendant un long moment, hein, les troupes du Nigeria, hein, les casques bleus du Nigeria ont été postés à Banamba pendant un bon bout de temps. Hein.
Si, je le confirme. Mais finalement, on a quasiment déployé tout ce beau monde vers le nord. Et je pense que l'ampleur que prennent les choses... Il serait temps de revoir le dispositif sécuritaire. C'est vrai que ces forces internationales, notamment la MINUSMA, disent que ces zones-là peuvent être gérées par nos armées, forces de défense, sécurité, police et autres. Mais on voit que si ces forces internationales-là, la MINUSMA, Barkhane, ne sont pas aussi déployées dans ces zones, il y a péril à l'en demeure. Car elles ont... Cet avantage...
Le Mali n'a pas les moyens aujourd'hui de sécuriser. On ne parle même pas du nord, mais le centre et le sud.
Le centre et le sud.
On n'a pas les moyens.
Ça, c'est d'une part. Et d'autre part...
Ça, vous êtes d'accord avec je vous vois sourire.
Ça pose
est-ce que c'est devenu une fatalité
Ça ne doit pas être une fatalité si on veut être un État.
Alors,
le Mali n'a pas les moyens. Le Mali n'a pas les moyens. C'est trop facile.
C'est quoi la solution?
Le Mali n'a pas les moyens, c'est trop facile. C'est le Mali qui doit se donner les moyens d'assurer la sécurité sur son territoire.
Alors comment est-ce qu'on
va faire? On ne va pas déployer la MINUSMA ici, désolé. On ne va pas déployer la MINUSMA pour assurer la sécurité à Garangasso.
Monsieur.
Je vous en prie. La MINUSMA est venue avec un mandat bien précis. La MINUSMA ne va pas venir supplier l'État du Mali.
La stabilité du Mali,
s'il vous plaît.
Pas du nord
s'il
du
vous
Mali.
Plaît, s'il vous plaît.
Je vous en prie.
S'il vous plaît, la stabilité du Mali, on ne va pas envoyer la MINUSMA à Garangasso pour assurer la sécurité du Mali. Si le Mali est une république, que le Mali prenne les dispositions pour assurer la sécurité des citoyens maliens sur l'ensemble du territoire malien. À défaut de ça, il faut que le Mali disparaisse alors. On n'est pas une république.
Alors, Fofana souhaite réagir avant que je ne donne la parole à Idrissa.
Non. Moi, je suis tout à Fofana fait d'accord. Parce que je crois qu'il y a un faux procès qu'on fait à l'aménagement. Aucun pays, je crois que, comme on a dit, personne ne viendra construire ce pays en notre place. Personne ne viendra sécuriser, mourir pour ce pays à la place des Maliens. Je crois qu'il y a déjà du sang, assez de sang qui a versé. Chaque jour, les soldats sortent sur des mines. Mais la finalité, il faut que le Mali s'arme. Je crois que le recrutement des 5000 militaires, ça va dans ce sens.
Donc, c'était déjà difficile hein, avec la grève des magistrats, on ne peut plus obtenir
les documents administratifs. Oui, mais il y a eu des... Bon, vous voyez encore tout ça, parce que c'est pour cela que je dis...
Il y a des répercussions sur la sécurité.
Non, parce que tout ça, c'est une prise en otage aussi. Des jeunes diplômés, des gens qui veulent accéder. Non. Ça, il fallait un certain minimum pour donner ne serait-ce le certificat de nationalité et le casier judiciaire. Je crois que si les magistrats avaient fait ça, moi, j'aurais beaucoup apprécié.
Vers la sécurité, alors. Finalement, Idrissa, est-ce que c'est une tâche impossible aujourd'hui de sécuriser le Mali hein? On ne parle même pas du Mali dans le nord du pays, mais on parle aussi du centre et du sud. Hein? Le centre qui, aujourd'hui, est en train d'être en proie à une insécurité chronique. On a vu Karangasso, maintenant, dans la région de Sikasso, qui est complètement dans le sud, hein, où on enlève Sœur Gloria Gauthier.
J'insiste et je persiste par rapport à mon confrère Hassan. Le Mali est à la croisée des chemins au plan sécuritaire. Évidemment, il y a des forces qui sont là. Ce ne sont pas ces forces-là qui vont faire le Mali. Mais quelle est la conclusion? Après plus de 2 ans de présence, parce que ces forces-là ont quasiment 3-4 ans de présence ici, la situation sécuritaire s'est envenimée. Et pas qu'au nord à l'époque, à travers tout le territoire. Souvent, certains Maliens ne comprennent pas qu'on a les FAMA. C'est vrai que nous sommes les intellectuels, c'est à nous de relayer que l'armée nationale a des problèmes, il y a la question de dotation qui est en cours. Mais quand même, une partie de l'opinion ne comprend pas que nous avons une armée nationale, des forces de sécurité, et encore qu'il y a des contingents sous la bannière des Nations Unies. Et cette force l'icône tout ce beau monde.
On n'a pas encore parlé des groupes armés.
Justement.
Hein, plateforme CMA.
Voilà. Tout ce beau monde-là qui est là pour censer sécuriser le pays. Et jusqu'à présent, la mayonnaise ne prend pas. Donc, c'est vrai qu'il y a une loi de programmation militaire qui vraiment ne va pas faire ses effets systématiquement. On vient juste de lancer un recrutement. Mais il ne va sans dire que. Il y a un détail logistique sur lequel j'aimerais quand même insister.
Rapidement,
c'est que déjà, il fut un temps, on parlait de mettre des caméras. Je viens. C'est vrai que ça ne peut...
Hassan connaît son frère.
Bien sûr.
C'est pas la solution, selon vous.
Non, c'est une piste de solution.
Ça peut aider.
C'est vrai que peut-être que ce cas-là peut être valable dans les grandes circonscriptions, même si ce n'est pas là-bas seulement que les bandits agissent. Mais si déjà, on a un système de filmage dans certaines circonscriptions du pays, ça pourrait aider à identifier certaines choses, certains individus. Mais comme je l'ai dit, pour moi, on a plusieurs forces qui sont là en même temps pour aider le Mali à se stabiliser, qui ont une vocation sécuritaire. Je pense qu'il faudrait un peu redistribuer pour que la présence sécuritaire soit un peu plus dissuasive un peu partout. Et ça pourrait aider nos forces armées nationales. Car ces forces internationales-là ont quand même une longueur d'avance côté équipement et certaines choses par rapport à notre armée nationale qui est en pleine refonte.
Merci Idrissa Keïta. À présent, un autre thème. Tous les représentants des groupes signataires de l'accord pour la paix sont à Bamako pour cette deuxième rencontre de haut niveau du comité de suivi de l'accord d'Alger. Une réunion qui avait été réclamée à plusieurs reprises par les groupes armés, notamment ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad. Et on espère que cela permettra d'insuffler justement une nouvelle dynamique. Hassan connaît de notre nation.com le gouvernement. La médiation algérienne ont tous dénoncé la lenteur et la confusion qui règnent autour de l'application de l'accord. D'où est-ce qu'elle nous vient finalement, cette confusion, quand on a l'impression que c'est quand tous les acteurs sont ensemble que rien ne bouge finalement?
La question même, c'est de savoir en définitive qui doit appliquer l'accord. Puisque tout le monde se plaint, l'État malien se plaint de la lenteur, les groupes armés se plaignent de la lenteur, les facilitateurs se plaignent de la lenteur, mais qui doit appliquer cet accord-là? Bon, j'ai eu à le dire ici une fois. Hein. Si vous voyez qu'il y a des difficultés dans l'application de ce document, sûrement, c'est un document qui a été imposé de l'extérieur.
Imposé à qui? Imposé à l'État, aux groupes armés?
Imposé et au Mali et aux groupes armés. Si on avait réuni les conditions pour que le document soit une véritable sécrétion du gouvernement malien et des groupes armés, je pense qu'on n'allait pas mettre 2 ans à l'appliquer. Le document vient d'ailleurs, cela pourrait expliquer les difficultés d'application.
Merci. On va prendre quelques secondes de pause et continuer avec cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de suivre le forum de la presse avec la lecture de l'actualité hebdomadaire avec nos collègues Mamadou Fofana de l'Indépendant. Alors, comment vous expliquez cette lenteur, hein? Pourtant, tous les acteurs sont ensemble. La médiation internationale est là, mais les choses ne semblent pas bouger. On a vu même ce boycott, hein, de la CMA lors du dernier CSA.
Bon, je crois que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je vais dire une chose, hein, c'est-à-dire l'accord là tôt ou tard sera appliqué. Comme a dit Hassan, même si...
Ah, contrairement à Hassan, vous pensez qu'il est applicable cet accord, hein?
Non, on va l'appliquer. Pas qu'il est applicable, il sera appliqué. On n'a pas le choix. C'est un accord qui a été signé, qui a été paraffé par toutes les parties. Je crois que... Non, aujourd'hui on n'a pas le choix. Parce que je crois que l'accord a été critiqué, mais au finish, tout le monde dit que non, il n'y a pas d'autre choix. Si ça a été imposé par la communauté internationale, mais c'est cette communauté internationale qui va aussi nous aider à l'appliquer. Parce qu'en réalité, sans cette communauté internationale, nous, Maliens, entre nous-mêmes, nous ne sommes pas arrivés vraiment à se réunir. Donc, si on est passé par cette communauté qui a fait un document, parce que quand on regarde, moi, je crois que c'est qui a traîné...
Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de prise en otage du Mali, hein, déjà?
Non, parce que quand les pays
donateurs estiment que le Mali doit lui-même faire face aux dépenses, hein, dans le comité technique de sécurité. Ils vont arrêter de financer le CTS février.
C'est pas l'argent qui manque en réalité sur le plan mondial pour la sécurité.
Mais les pays donateurs disent ne plus vouloir ou ne plus pouvoir faire face aux dépenses du comité technique de sécurité.
Pourquoi ça traîne? Je crois que le gouvernement malien a traîné sur la conférence d'entente nationale. Moi, je crois. Je crois que le premier faux pas est venu de là. Si on avait fait ça dès le début, comme c'est dit dans l'accord. Et malgré l'insistance de la société civile, de certains partis de l'opposition, le gouvernement n'est pas allé dans ce sens. Donc je crois que, in fine, c'est en mars prochain que c'est prévu. Donc je crois que c'est ça qui explique un peu. Si tous les Maliens s'étaient réunis,
alors, vraiment. On voit les grands dirigeants, hein, des groupes armés qui sont là, Bilal Aga Chérif est là.
Non, c'est ce que je dis. Je dis que tôt ou tard, on n'a pas d'autre choix. L'accord par notre génération ou par la génération qui viendra. Je ne sais pas. Quand? Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 mois, dans 10... Non.
Alors, est-ce qu'Idrissa Keïta, est-ce qu'il faut attendre 5 ans, 10 ans pour appliquer cet accord-là?
Je ne pense pas. Je suis de ceux-là qui ont le sentiment que l'accord, il est caduque. Après quasiment 2 ans...
Mais personne ne l'a dénoncé. Un document caduque, et personne ne l'a dénoncé. Aucun signataire n'a dit « Je renonce, je ne chose pas ». Non, l'accord n'est pas...
Vous l'aviez dit tout à l'heure.
Les gens se plaignent.
La preuve, c'est cautionné par la communauté internationale. Personne ne va vouloir se mettre la communauté internationale sur le dos.
Voilà
la réalité.
On va laisser Idrissa.
Ils savent qu'il y a un problème à l'intérieur.
Je me réfère juste à la majorité et à l'opposition. À titre d'exemple, la majorité estime que c'est ce qu'elle avait sous la main. En tout cas, à travers les propos de la majorité du pouvoir, je dirais qu'effectivement, elle n'avait pas le choix que ça. Mais l'opposition, dès le départ, a quand même dit qu'elle ne se retrouve pas dans cet accord, qu'elle prend acte, mais elle y voit des germes de scission, de division. C'est cette cacophonie, déjà entre majorité et opposition, qui plus tard s'est aussi transportée au niveau des groupes armés. Souvenez-vous, à l'époque où l'accord était signé, les groupes armés, le nombre qu'on avait au nord n'est plus le même qu'aujourd'hui. À un moment, on était même dans cette confusion de qui est censé intervenir au niveau du comité en question par rapport aux groupes armés. Donc, il y a eu une cacophonie.
Mais tout le monde est dans le moc.
Tout le monde est dans le moc. On a plateforme CMA
mais tout le monde est
représenté dans le moc, par exemple.
Mais
d'accord, moque, je vous propose, Mamadou Fofana l'a dit tout à l'heure, la conférence d'entente nationale, une conférence d'entente nationale
je voulais y venir.
Qui va intervenir justement le mois prochain. Quels sont les enjeux de cette rencontre-là?
Les enjeux, ils sont énormes. Déjà, c'est une recommandation de l'accord. Au-delà, le Mali a quand même mis sur place une commission vérité-justice.
Réconciliation,
qui quand même piétine. Après plus de 2-3 ans, on ne voit rien.
Alors, cette conférence d'entente nationale ne va absolument pas se substituer à la CVGR.
Non. J'essaie de dire que quoi, il y a quand même une volonté. Ou si vous voulez, il y a un fait qui est là. Les Maliens doivent se retrouver. Les Maliens, ils doivent se parler. Et tant que les Maliens ne se retrouvent pas, tant qu'ils ne se parlent pas, et de façon sincère, parce que je pense qu'à travers la conférence nationale, ceux-là qui...
D'entente nationale,
qui ont estimé qu'ils pouvaient être à Alger, pourront cette fois s'exprimer. Ce sera vraiment une rencontre très inclusive où on est censé avoir quelque chose de consensuel. Et c'est vraiment au sortir de cette conférence d'entente nationale que le peuple malien saura où il part.
Hassan Kone de notrenation.com, de quoi va-t-on parler justement pour cette conférence d'entente nationale? On parle beaucoup de cette question du terme Azawad.
Le Mali ira à la paix ou n'ira pas à la paix à l'issue de cette conférence d'entente nationale.
Vous avez bon espoir?
C'est l'élément essentiel. Et moi, je pense que avant de nous déporter en Algérie ou au Japon, à Pékin, pour aller discuter, c'est par cette conférence d'entente nationale qu'on devait passer depuis. Si, parce que la communauté internationale...
Alors, elle se veut inclusive.
La communauté internationale a une démarche pour régler des problèmes qui ne sont pas souvent les bonnes méthodes, il faut le dire.
Alors, dites-moi,
Hassan. Faut jamais se substituer aux acteurs. Aide les acteurs à trouver une solution. Et malheureusement, dans le cas malien, cela ne s'est pas passé. Avec la conférence d'entente nationale, même cet accord qui pose problème, c'est grâce à cette conférence d'entente nationale que le Mali va s'approprier ce document. Les acteurs maliens vont s'approprier ce document. Parce que ce document sera relu dans le sens où on peut rapidement aller à la résolution de ce conflit. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a d'autres intérêts en jeu ne sont pas forcément des intérêts maliens.
Une question...
Même ce n'est pas forcément les intérêts des groupes armés.
Une question très rapide. Est-ce que cette conférence d'entente nationale doit être très inclusive et même s'ouvrir à quelqu'un comme Yad Agali?
Non, si la conférence d'entente nationale n'est pas inclusive, elle aura échoué.
Donc si Yad Agali,
moi personnellement, je ne vois pas de problème. Personnellement, je le dis, je ne vois aucun problème que le Mali démarche Yad Agali pour qu'on sorte de ce conflit-là, de ce problème-là. Si effectivement il est démontré que... Parce que Yad Agali, il est quelque part dans ce monde.
Il est malien.
Il est malien et il est quelque part dans ce monde. Et toutes ces puissances internationales ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas où il existe. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas où il existe.
Où il est.
Ils savent où il est. Ils savent où il est situé. Donc si c'est en réalité, ils ont tous les moyens pour sécuriser le Mali. Si c'est Yad qui pose problème, ils devaient trouver une solution. Mais s'ils n'ont pas trouvé une solution, il faut que le gouvernement malien prenne sa responsabilité pour nouer contact avec Yad Agali et voir comment, si Yad n'est pas là, que sa tendance soit présente à cette rencontre. Mais malheureusement, il paraît qu'ils l'ont mis sur une liste qui pose problème. Et ça va être très difficile que Yad apparaisse publiquement.
Mamadou Fofana de l'Indépendant, pour parler d'inclusivité, est-ce qu'il faut également que Ansardine de Yad Agali soit représenté au cours de cette conférence d'entente nationale le mois prochain?
Bon, moi je crois, comme a dit Hassan, s'il y a des Maliens, moi je crois que. C'est-à-dire, il n'y a pas de prix pour la paix. Vraiment, il n'y a pas de prix.
quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce qui a été fait, s'il y a participé, moi je crois qu'on aurait trouvé la solution à 80%. Donc je crois que c'est une... Je ne sais pas, je suis même surpris quoi, par la question. Hein. Parce qu'en réalité, moi je vois Yad très loin, et puis Yad, moi je vois un terroriste qui n'a pas intérêt à venir à la table de négociation. Donc voilà un peu, bon moi, même s'il venait, vraiment c'est une bonne initiative, ça serait une bonne chose.
Est-ce que c'est possible qu'il vienne?
Non mais c'est ça, c'est pour cela que j'ai dit, moi je suis surpris par la question.
Il n'est pas obligé d'être là physiquement.
Je suis surpris, non pas lui.
Il peut se faire représenter.
Hassan, moi je crois que, bon, je vois mal aussi le Mali courir derrière lui, puis bon. Mais c'est compliqué. Moi, je crois que, en réalité, des personnages comme les Yad.
Alors, le terme Azawad qui fait couler, qui pose autant de problèmes, hein, une partie du pays qui se reconnaît dans ce terme Azawad, une autre partie qui n'en veut absolument pas.
Pour moi, c'est culturel. Si c'est culturel comme le pays
d'Ougon,
on peut dire le pays d'Ougon, le pays.
Le problème est mal posé selon vous.
Le Méguétan, etc.
On va laisser Idrissa Keïta.
Je vais finir avec ça. Le terme Azawad, moi, je crois que ça, c'est des petits détails. Parce qu'en réalité, nos régions, là, je crois que c'est très clair. Hein, terme hasard, si c'est culturel, tant mieux. Mais je crois que le Mali ne va pas donner Azawad dans une réunion ou autre chose. Hein, je sais que pour moi, c'est purement culturel, quoi. C'est comme si j'ai dit Koulokoro, le Méguétan, je dis, bon, et le Kénédougou. Vraiment, pour moi, c'est un peu ça.
Idrissa Keïta, de Raïda Info.
Vous savez, cette conférence nationale, même... D'entente nationale. L'inclusivité peut même s'étendre à un Malien non des moindres qui est du côté de Dakar. Ça peut paraître...
Vous parlez du président...
De l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui maintenant n'a aucun supposé ou éventuel chef d'accusation envers sa personne. Même lui, à sa place, à cette tribune. Mais pour revenir...
Ça va changer le cours de la conférence. Voilà. Ça, c'est... Non, lui, c'est mieux qu'il reste là-bas.
Voilà. On a dit d'entente nationale.
Non, attention.
On a parlé d'inclusivité. S'il vous plaît, on déplace le problème.
Attention.
S'il vous plaît.
Non. Bon, c'est que vous n'êtes pas dans la logique de chercher une solution au problème malien.
Monsieur,
vous êtes dans la logique de chercher... Le problème est connu.
Monsieur Hassan,
ATT ne pose pas problème.
Je pense que tous les...
S'il vous plaît, ATT ne pose pas... Non, attention.
Idrissa,
il n'est pas protagonisé la crise aujourd'hui.
Hassan Kone,
ATT ne pose pas problème.
Hassan Kone, on va laisser Idrissa.
Non, s'il vous plaît.
Au premier jeu...
Mamadou Fofana, sur cette question-là.
Soyez sûr et certain que si ATT vient, au niveau sécuritaire, il fera des révélations.
Il était là, il y a eu un problème. Donc calmez-vous.
Il fera des révélations, cher ami.
Je vous retire la parole. Il nous reste moins d'une minute sur cette question, Mamadou Fofana.
C'est vraiment... Je crois qu'en réalité, il ne faut pas politiser ces choses. Vraiment, c'est un truc technique. C'est une rencontre entre Maliens. Et si ATT, l'ancien président, a des initiatives de contribution à travers... Mais seulement sa présence ou non, vraiment, il faut le laisser là-bas. Moi, je crois qu'en réalité, ça va faire... Non.
Alors, Hassan Kone...
Non, je ne pense pas.
Hassan Kone, justement, il nous reste à peine une minute. Non, justement,
je voulais préciser quelque chose. Quand vous dites une partie du pays se reconnaît dans l'Azawad, ça pose problème. Moi, je ne vois pas la partie du pays qui se reconnaît dans l'Azawad. Il y a des individus, je vous en prie. Kidal, c'est quoi? Qui se reconnaît à Kidal dans l'Azawad?
Le terme
non, Azawad. S'il vous plaît, calmons-nous.
Chaque année, on célèbre l'anniversaire de l'Azawad.
Ils sont ceux qui célèbrent l'anniversaire. Vous faites un glissement très dangereux, je vous en prie.
Je vous en prie,
vous faites un glissement très dangereux. Laisse-moi terminer. Aucune partie du Mali ne se réclame dans l'Azawad. Il y a des individualités qui ont voulu utiliser le mot Azawad comme un épouvantail. Soyons très clairs sur les choses.
La conférence d'entente nationale.
Chaque année ont une date à laquelle ils célèbrent ce terme.
Soyons très clairs sur la chose.
Hassan, la conférence d'entente nationale va nous permettre donc de régler cette question.
On n'arrive pas à trouver une solution au problème malien. Parce qu'il y a des individus qui disent qu'on est malien, on discute, mais chaque fois, ils vont s'arcarbouter ou se cacher derrière l'Azawad. S'ils sont dans la logique d'avoir leur indépendance, moi je dis qu'il faut qu'on soit très clair. S'ils ne sont pas d'accord avec l'unité nationale, qu'ils le disent clairement. On ne veut pas l'unité nationale et tout le monde va se...
L'accord de paix avec la
monsieur,
que tous ceux qui sont contre...
Monsieur, merci. On est pris par le temps. Hein. On espère donc que la conférence d'entente nationale va pouvoir résoudre justement ce genre de problème entre les Maliens et que le vivre ensemble va finalement prévaloir. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandjalo. Salim Diouara était à la mise en onde. Nous, Ndjiré a assuré la régie vidéo. Vous retrouverez cette émission sur www.studiotamani.org. Celle-là ainsi que toutes les autres. Merci à vous, messieurs, mesdames. Bon week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Demandé.
Chenne Berry. Sigi.